Merci Nicolas, c'est à tout à l'heure 11h. En attendant, dans une petite demi-heure Yves de la Foi pour le choix de la rédaction, dans un petit quart d'heure, la bulle d'oxygène spirituel qui vous accompagne, bien évidemment, tout au long de vos matinées. Depuis cette rentrée, on en est très fiers à 10h15. Mais tout de suite, on n'en est pas moins fiers. La rencontre présentée par Marie-Léla Coussa. Bonjour Marie-Léla.
Bonjour Marie-Ange.
Nous faites l'honneur de recevoir l'évêque de Pontoise ce matin.
Oui, bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes
l'honneur est partagé.
L'évêque de Pontoise depuis 8 ans maintenant.
Oui.
C'est un diocèse qui a été très touché par l'épidémie. Hein. Peut-être pour commencer, dans quel état d'esprit commencez-vous cette nouvelle année ?
Eh bien, il y a beaucoup de paradoxes, parce qu'on a vécu une année très très rude, très difficile, vous venez de le dire. Le Val-d'Oise a été un des départements les plus touchés, donc il y a eu des décès, 4 prêtres sont décédés, dont un curé, beaucoup de décès dans les hôpitaux, dans les EHPAD, beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi, beaucoup de personnes aussi... déboussolé. Je pense en particulier aux enfants et aux jeunes. Beaucoup ont décroché malgré les efforts magnifiques des enseignants, aussi bien dans l'enseignement public que dans l'enseignement catholique. Et donc, on a vécu des choses très difficiles. Et en même temps, quand je relis, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon petit livre « Vivre et espérer », quand je relis, quand je fais une relecture de ce que nous avons vécu, il y a eu aussi de très très belles choses sur lesquelles on peut se baser, on peut se fonder. Par exemple, beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus de liens de proximité entre les personnes. Chez les prêtres et les laïcs qui travaillent avec eux, aussi beaucoup d'audace missionnaire et pastorale. Il y a une créativité pastorale que je trouve extraordinaire.
Par exemple,
eh bien, je vois telle ou telle paroisse qui a proposé des bénédictions de maisons et d'appartements. Il y a eu aussi beaucoup de visioconférences. Alors c'est vrai qu'on en a un peu assez d'ailleurs des visioconférences, mais ceci étant dit, heureusement qu'on a cette technique-là qui permet de belles rencontres. Je prends par exemple avec les jeunes, j'ai eu plusieurs rencontres avec des centaines de jeunes grâce à Zoom, grâce à YouTube, grâce à tous les moyens techniques qui ont permis de garder des liens et garder du contact. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que dans ces rencontres avec des enfants ou avec des jeunes, souvent les parents étaient là parce qu'ils les aidaient techniquement. Et donc il y a eu un lien avec les familles peut-être plus fort que d'habitude. Et puis alors, de façon très positive aussi, un certain nombre de prêtres m'ont dit que je crois que le fait d'être dans des conditions très difficiles fait qu'on ne reste pas, j'allais dire, à la surface des choses. Mais un certain nombre de questions existentielles se sont posées, des questions du sens, et le rapport à la mort, le rapport à l'autre. Et un certain nombre d'adultes demandent le baptême, demandent la confirmation, se préparent au mariage. Enfin, c'est assez étonnant. Donc, une situation très contrastée. On parlera peut-être des finances, ou ça, c'est une autre difficulté. Mais je trouve un paysage très contrasté. Et donc, finalement, vous me posez la question, comment je vois le début de l'année? Bon, d'abord, on est un peu dans le brouillard, parce qu'on attend tous les 15 jours quelles vont être les décisions du gouvernement. En même temps, il ne s'agit pas de se dire, bon, on arrête, il faut sans doute vivre l'Église autrement. Peut-être avec des rassemblements plus modestes. Ça permet d'ailleurs à ceux qui sont... peut-être en situation plus fragile, de prendre des responsabilités, peut-être des pèlerinages moins importants, une autre manière de vivre en Église. Et je pense que ça, on a à travailler là-dessus.
Vivre et espérer aujourd'hui, c'est encore possible. Donc,
je crois tout à fait. Alors, les chrétiens ne sont pas indemnes on est tous dans le même bateau, on est tous faits du même bois. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de solidarité. Puis en même temps, si les chrétiens ont quelque chose à dire aujourd'hui, c'est une espérance au cœur des difficultés, au cœur de l'épreuve, au cœur peut-être aussi des peurs, au cœur du questionnement. Comment va se vivre l'espérance dans ces temps troublés, dans ces temps qui sont incertains? Je vois bien qu'un certain nombre de chrétiens ont du mal à revenir à la messe dimanche. Quelquefois, c'est parce que ils sont très âgés, ils ont peur. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Mais comment vivre l'Église autrement? Mais je trouve que c'est une très belle source, une belle source d'espérance. Et je suis très, très frappé parce que un certain nombre de jeunes qui m'écrivent, par exemple, pour être confirmés, relisent aussi spirituellement ce qu'ils viennent de vivre et de belle manière. Je crois que j'aurais pas été capable à 15 ans d'écrire les lettres qu'ils m'écrivent. Et comme je suis actuellement en train de répondre aux confirmants ou aux confirmés, je trouve que là, il y a vraiment, il y a qui est une belle source de, d'enthousiasme et d'espérance. Alors c'est ça que j'ai essayé de faire dans, ce petit livre Vivre et espérer. Mais comment la parole de Dieu aujourd'hui peut venir s'inscrire et peut venir éclairer la route, même quand elle est incertaine? On est peut-être un peu comme Abraham, finalement. Abraham avait une foi chevillée au corps, mais il ne savait pas encore jusqu'où Dieu allait le conduire. Je crois qu'on est un peu dans cette dynamique-là. Donc, il y a un enjeu spirituel très important. Vivre l'aujourd'hui de Dieu, maintenant. Voilà.
Pour vous, qu'est-ce qui était le plus difficile pendant cette période, Monseigneur Lannes, pour vous personnellement?
Personnellement, j'ai trouvé que... Bon, d'abord, on a tous été habités par... Enfin, moi aussi. La pandémie, est-ce qu'on ne va pas attraper ce foutu virus? Bon, il y a des peurs. J'étais aussi habité par des peurs. Deuxièmement, c'est le manque de contact. Alors, en même temps, on a suppléé par des coups de fil, par des visioconférences. Par exemple, je rencontrais toutes les semaines les aumôniers des grands hôpitaux. C'était très important de les soutenir dans leur mission. Mais ce qui m'a manqué, c'est le contact direct, ces visites pastorales qu'on a été obligé d'arrêter. J'étais en visite pastorale dans les paroisses. Il y a un ami qui me disait, finalement, on est comme dans une sorte de disette relationnelle. C'est vrai, hein? Alors, il faut la compenser, mais c'est ce manque de contact. Et je comprends que pour beaucoup de prêtres, ça a été difficile de pas pouvoir faire corps avec le peuple qui leur confié. Pour moi, c'est ça qui a été le plus difficile et qui est encore difficile aujourd'hui.
Et vous appelez donc tous les fidèles, vos prêtres également, à une conversion donc missionnaire, personnelle.
Ouais, on a un peu plus de temps, même si le temps passe vite, et on a un rapport au temps qui est un peu perturbé. Mais j'ai souhaité écrire une exhortation qui s'appelle, toute simple, qui s'appelle « Saisie » au pluriel par la charité. La charité, c'est le cœur même de Dieu. Et je crois que des périodes comme celle-ci, quand on les relit spirituellement, ces épreuves, nous invitent à revisiter ce qui est le cœur de l'Évangile, le soin de l'autre, le soin de celui qui est le plus en difficulté. Et ça est en résonance avec une lettre pastorale que j'ai publiée il y a 2 ans. Il y a 3 priorités, les familles, les jeunes et les personnes en précarité. Et donc, j'ai souhaité que... dans toutes nos communautés paroissiales, dans les aumôneries, dans les mouvements, puisse dire, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement que de vivre la charité de Dieu? Parce que c'est l'ADN du chrétien. On ne peut pas séparer la relation à Dieu, la prière, de la relation aux frères. Et je crois que là, on est provoqué par les événements à revenir à ce qu'est le cœur de l'Évangile.
Monseigneur Lannes, cette période est difficile socialement, hein, vous l'avez dit, mais aussi financièrement. C'est important de le dire.
Financièrement, c'est une question...
Même pour l'Église.
Ah oui, pour l'Église. Hein, il y a eu, je crois, une conférence de presse récemment montrée qu'il manquait 90 millions d'euros. C'est énorme, hein, pour l'ensemble des diocèses. Mais le diocèse de Pontoise a été très touché. Et alors, là encore, c'est contrasté. Parce que en même temps, il a manqué les quêtes, hein, bien sûr, les dons pour à l'occasion du sacrement, baptême, mariage, etc. Et puis en même temps, le denier, je crois que c'est pas seulement dans le Val-d'Oise, j'ai vu que les chrétiens ont été généreux. Le denier cette année va être entre 5 et 10% de plus que d'habitude, c'est-à-dire que les chrétiens sont bien conscients, malgré leurs difficultés, parce que beaucoup sont en difficulté financière. On est un département dans lequel il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de précarité. Et malgré ça, moi je donne un coup de chapeau à tous ceux qui ont été donateurs au denier. Mais en même temps, de fait, on a un trou financier qu'il faut absolument combler. Ça oblige peut-être à réfléchir sur quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'il faut lâcher, qu'est-ce qu'il faut garder. Et donc, ça nous oblige, là aussi, à réfléchir sur quelles finances pour quelle mission.
Est-ce que vous avez déjà des idées, justement, concernant...
Actuellement, on est en train de regarder, par exemple, notre parc immobilier, qui n'est pas extraordinaire par rapport à d'autres diocèses environnants. Hein, mais n'empêche que... J'ai demandé à tous les curés, et puis les conseils de financiers, les conseils économiques, et les équipes d'animation pastorale, de leur dire, mais qu'est-ce qui est essentiel pour votre mission? Puis le reste, ben, on lâchera peut-être. Hein, voilà. Mais donc il y a une réflexion, il y a un discernement à avoir, hein, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut réfléchir pas seulement à court terme, mais à moyen et long terme. Mais voilà, qu'est-ce qui est prioritaire? Et je pense aussi que tout ce qui est quête, don en ligne et tout ça, on a aussi à le développer, on y travaille.
Monseigneur Lalanne, vous êtes également le président de la Fondation nationale pour le clergé, fondation qui s'occupe donc des prêtres religieux et religieuses âgés. Et vous avez...
Oui, âgé, pas seulement âgé. Oui,
pas seulement.
Oui. Non, pas seulement. Enfin, en particulier de la santé, enfin, voilà, des donateurs pour les, tous ceux qui sont acteurs dans la mission, des prêtres, des religieux, des religieuses. Donc ça touche aussi les communautés religieuses. Mais vous avez raison, plus particulièrement ceux qui sont au troisième ou quatrième âge. Oui.
Alors quelle est la situation aujourd'hui? Comment...
Ben alors, premièrement, on a environ 15 000 donateurs. Comme je suis en direct sur Radio Notre-Dame, j'en profite pour dire que on attend les dons des fidèles, environ 15 000 donateurs. On récupère à peu près, enfin, on rassemble à peu près 10 millions d'euros par an. Et ça peut aider pour la construction, l'aménagement de maisons de retraite spécialisées, l'achat de matériel, de véhicules, aussi des cotisations d'assurance. Donc il y a un beau travail qui se fait en faveur. Pour que aussi les prêtres et les religieux religieuses vivent dignement. Je crois que c'est très important qu'on soit aussi solidaires de ceux qui ont donné leur vie pour le Christ.
La Fondation a notamment financé en partie l'étude qui a été faite sur la santé des prêtres.
Est-ce Tout qu'il à y fait. A eu, Oui, oui, la Fondation pour le clergé a pris part financièrement à cette enquête, qui est une première. Et alors, on n'a pas le temps là de donner tous les résultats, mais j'ai été très frappé par le fait que plus de 40% des prêtres interrogés ont répondu au questionnaire, ce qui veut dire que plus que je l'aurais pensé, parce que souvent dans les enquêtes on répond pas. Bon, mais là ils ont répondu, ça veut dire qu'ils prennent soin de leur santé. Et là, moi, ce que je vois comme une des conséquences, enfin un des résultats, c'est que bon, il y en a qui sont aussi, on voit que au niveau de la santé psychique, là il y a un travail à faire, mais je vois que quand les prêtres sont seuls, c'est là que les difficultés sont les plus grandes. Donc, je crois que, comme évêque, nous sommes invités à développer cette fraternité entre prêtres. Je ne peux pas en dire plus, parce que je sens qu'il faut que je m'arrête.
Un grand merci, Monseigneur Lalanne, d'avoir
journée.
Été avec nous aujourd'hui.
Et oui, nos prêtres, ils sont presque, même tout à fait, des bougies dans ce tunnel, hein, qui sont plus que jamais essentiels, n'est-ce pas, Monseigneur Lalanne?
Ah ben, ils sont essentiels. Ah ben, si vous me redonnez 30 secondes, ça, c'est bien.
Non,
mais
c'est
vrai. Non, juste un mot pour dire que, d'abord, ils ont une place essentielle. On le voit encore plus aujourd'hui. Mais ils travaillent aussi avec un ensemble de laïcs. Et c'est ça aussi, cette articulation, ce travail ensemble qui je trouve, est merveilleux. Moi, je suis fier de ce que vivent les prêtres et de ce que...
Et vous avez raison. Soyons un peu fiers. Ben,
merci de me dire que j'ai raison, Marie-Ange.
On va dire que je fais de la compromission. Bref, merci Marie-Lalanne surtout.
Oui,
merci Monseigneur Lalanne et à demain.